fadine de la tristesse oublie, le bruit du cœur brisé faibli, et la cendre blanchit la braise. J'ai bu l'été comme un vin doux, j'ai rêvé pendant ce mois d'août, dans un château rose en Corrèze. Fadine de la tristesse oublie, le bruit du cœur brisé faibli, et la cendre blanchit la braise. Qu'était-ce qui faisait soudain un sanglot lourd dans le jardin, un sourd proche dans la brise? C'est comment le noir secret de mon tourment, à son tour l'ombre s'y demande. Je cherchais à n'en plus finir cette douleur sans souvenir, quand parut l'aube de septembre.
Salut les amis. bien, c'est reparti pour une heure ensemble. Je veux saluer particulièrement, comme presque chaque semaine, parce qu'ils sont loin, Scarlett, Léonore, Pépé, Corinne, Jean-François, et aujourd'hui Sam, Gaspard, et bon anniversaire Raphaël. Voilà, je vous rappelle que, c'est mon édito, que nous cohabitons encore le monde. Avec l'eau, le vent, la nature qui nous accueille, la nature minérale, végétale et tous les animaux de la terre qui ne nous appartiennent pas, entendez-vous les chasseurs, mais nous supportent généreusement. Voilà, j'ai beaucoup de mal à comprendre quand dans ces temps de changement climatique et catastrophique à venir, l'homme puisse encore s'amuser à faire la chasse à tous les animaux qui deviennent de plus en plus rares et qui ont réussi à survivre à cet été violent, si chaud, sans eau. Comme on fait la chasse aux migrants, toujours, alors que l'homme, depuis sa création, a circulé. Le premier homme est apparu en Afrique. Sans lui, on ne serait pas là. À méditer, une fois pour toutes, vous n'êtes pas né comme une fleur sur la terre. Vous êtes né parce que vos ancêtres étaient des migrants. Allez, bonne journée. Mosaïque.
Something hiding every night brings desire from the deep, and with it comes a burning light to keep us from our sleep. And as the full star tries its best to make the white pearls shine, glances of a new day have arrived. And though he's not alone, he fears to never love another, leave his heart forever with her smile. Feeling deep inside, you want to love it all again. Now don't leave there, just give it a chance.
Camélia Jordana avec une reprise de Tamino Habibi. Et vous écoutez Isabelle et l'émission Dididi.
Ah, c'était super beau. Hein. J'aime beaucoup Tamino, mais j'avoue que c'est très très différent. Et c'est doux, c'est magnifique. Bon, tout ça pour nous jeter dans le canard enchaîné. Et on a raison parce que ça fait des grosses différences d'émotion. Alors, dans le canard, cette semaine, le préfet prend les écureuils pour des sangliers. Bah, il a besoin de lunettes, alors. Hein. Quel rapport entre les chantiers de la très controversée A69 et les sangliers ? Bah, aucun. Sauf que le 28 août dernier, la préfecture de la Haute-Garonne a pris un arrêté de battue administrative. Elle a autorisé pour 5 jours, du 29 août au 2 septembre, les lieutenants de louveterie, du département a effectué des opérations destruction administrative d'espèces chassables qui occasionnent des dégâts et représentent un danger pour les biens et les personnes. Voilà. Bon, maintenant, il y a même les... Oh là 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 là. Je comprends plus. Tout le monde a le droit de tuer les sangliers maintenant. Bon, ben... 3 communes sont concernées, Vendine, Loubens, Lauragais et Francarville. Bon, les chasseurs s'en étonnent. Le responsable des services de la Fédé de chasse du département a dit « Une battue administrative, c'est la destruction, pas de la chasse. » Ah, ça fait plaisir d'entendre que les chasseurs détruisent quand même. Hein. Nos chasseurs n'y participent pas, évidemment. En plus, je n'ai pas entendu parler de soucis particuliers avec les sangliers dans le secteur, dit ce chasseur. Même son de cloche du côté des maires des 3 communes concernées, aucun problème avec les sangliers. En fait, cet arrêté a surtout servi à interdire l'accès à certaines routes, notamment la route sur laquelle on peut accéder à Vendine, qui est une commune que l'autoroute A69 doit traverser, coupant en deux la départementale, bordée de platanes d'alignement centenaire. Ah, voilà l'histoire. Cette départementale, les opposants au projet, 53 km de bitume entre Castres et Toulouse, vous en avez entendu parler, pour lequel il faudra sacrifier 366 hectares de culture, de vignobles et de prairies, 20 hectares de zones humides et 224 grands arbres. C'est dingue quand même. Et voilà, l'État a décidé de faire ça et on y va. Les écureuils aussi la connaissent bien, cette route, les écureuils. C'est ainsi qu'on surnomme les grimpeurs du groupe national de surveillance des arbres, fondé par le grimpeur arboriste qui s'appelle Thomas Brel. En mars dernier, sur la RD11, 3 d'entre eux avaient stoppé les abatteuses en restant perchés pendant 10 jours dans les platanes. Le 31 mars, début de la période de nidification des oiseaux, l'opération d'abattage avait dû être suspendue. Sur 12 arbres ciblés, les écureuils avaient ainsi été sauvés. Enfin, avaient sauvé aussi les 7 arbres dans lesquels ils étaient. Mais c'est là que ça change. Le 28 août, la préfecture a dégainé son arrêté de battue administrative et dès le lendemain, elle a déployé les grands moyens tout au long de la route. Pas moins de 200 gendarmes et CRS avec une brigade canine, 2 hélicos, 5 drones équipés de caméras thermiques pour filmer, enregistrer tout ce qui se passe et tout ce qui bouge, sans oublier les ballons éclairants. Non mais c'est dingue, ils veulent jouer à la guerre. Hein. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, entre 0h et 2h20, les 7 platanes ont été abattues devant une centaine d'opposants impuissants et tenus à distance par les gaz lacrymogènes. Voilà, aucun écureuil n'a réussi à grimper dans les arbres. Depuis, Thomas Brel est en grève de la faim. Il demande la suspension immédiate des travaux et quant à la préfecture, elle s'est félicitée. Ces opérations se sont déroulées sans incident. Une personne a été interpellée. Un sanglier peut-être. Non mais c'est dingue de voir comme l'État, comme le pouvoir se moque éperdument de la parole des gens qui habitent ces régions. Bon, il y en a un autre, mais cette fois c'est un procès qui prend l'eau. Alors là c'est un autre genre, mais voilà, on coupe les arbres centenaires et on vole l'eau. C'est les nouveaux jeux de l'État en France. Il y aurait des insurgés professionnels qui rêveraient du fameux grand soir et qui voudraient multiplier les ZAD. C'est ce qu'affirme le Figaro, à l'occasion du procès des anti-bassines. Il rappelle qu'en juin, Darmanin avait dévoilé une carte de France minée. Il en aurait pas moins de 42 prévus. Le même journal nous apprend que le 1er septembre, Darmanin a lancé discrètement une cellule anti-ZAD composée de 5 experts en droit. Ils vont voler au secours des préfets, certainement. Car les zadistes sont conseillés par des avocats très spécialisés, lesquels font des ZAD d'intolérables casse-têtes pour les pouvoirs publics. Tout ça est orchestré par des éco-guerriers et par l'ultra-gauche, évidemment. Alerte ! De grands projets risquent de se retrouver en jachère, quitte à ralentir le dynamisme de l'économie nationale. Il faut nous faire croire que la France vacille. Le procès des anti-bassines a commencé à Niort. Il y avait un centre-ville barricadé, des drones pour fliquer les quelques milliers de personnes, dont une douzaine d'ailleurs de députés et sénateurs, ELV et LFI. Et Sophie Binet, qui est la patronne de la CGT, qui était venue apporter leur soutien. C'était manifestants tenus à distance par les flics à 500 mètres du palais de justice. Salle d'audience minuscule, paraît-il, alors que ça doit être public. Et ils ont été interdits d'entrer. 9 prévenus, dont 4 sont syndiqués, 2 de la conférence de la Confédération paysanne et 1 à Solidaire, un CGT, enfin voilà. À la pointe du combat anti-bassine, évidemment, il y aurait des syndicats, donc des partenaires sociaux difficiles à assimiler aux méchants terroristes. Le procès fut lunaire, note reporter. Des accusations confuses, mélangées, mal étayées. L'un des prévenus a parlé dans un mégaphone. On se demande pourquoi. C'est donc que c'est lui qui a organisé la manif interdite le 25 mars. Tout est du même niveau. Plusieurs suspensions de séance. Il y a eu 5 témoins pour la défense, 2 pour les parties civiles. Même pas entendus d'ailleurs, faute de temps. L'audience commençait à 13h30, s'est arrêtée à 21h47 avec l'annonce d'une deuxième journée le mardi 28 novembre. Bon, il faudra qu'on s'en souvienne. Quelle belle leçon d'organisation. Aussi réussie que la dissolution des soulèvements de la terre par Darmanin. Aussitôt suspendu par le Conseil d'État, d'ailleurs. Le batelier Julien Leguet, animateur du collectif Bassine Non Merci, aura au moins eu le temps de dire ceci. Sainte-Soline, aujourd'hui, prière demain. Nous sommes le dernier verrou avant que la privatisation de l'eau ne contamine toute la France. Voilà ce qui est l'objectif de l'État. À Prières, en effet, à 60 km de Sainte-Soline, les travaux d'une troisième méga-bassine viennent d'être lancés. Il devrait y en avoir 16 comme ça dans les deux Sèvres. Une centaine, rien que dans l'ancienne région du Poitou-Charentes aussi. Et dans la France entière, évidemment. Ouais, bien la cellule anti-ZAD ne va pas chômer. Merci le canard de nous prévenir. Mouzeka.
Crépuscule et grandiose, mais peut-être un beau jour voudras-tu trouver avec moi les paradis perdus. Dandy, un peu maudit, un peu vieilli. Dans ce luxe qui s'effondre, te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué, toutes les nuits tu restais là, mais peut-être. Bonjour, voudras-tu retrouver avec moi As long as I have you.
Christophe, les paradis perdus, et vous écoutez Isabelle et l'émission Dididi.
Il risque d'y en avoir bientôt des tonnes des paradis perdus, je crains. Bon, on va continuer à parler de l'eau, hein. Alors, il y a un glaciologue qui s'appelle Luc Moreau, qui a fait de la mécanique des glaces son domaine d'expertise. Alors, il s'assied, il se sert un thé sur la terrasse face au Mont Blanc et il commence à expliquer ce qu'il pense. À l'altitude de 1600 mètres, la mer de glace a déjà perdu 3,5 mètres d'épaisseur depuis le mois d'avril. Vous imaginez d'épaisseur le glacier. Les glaciologues du XXIe siècle n'annoncent jamais de bonnes nouvelles. Il reprend, ça commence déjà moins bien qu'en 2022, quand la perte annuelle a été de 16 mètres dans l'année. Hein. En 2022, en effet, ça avait été une année noire. Le glacier avait minci sur ses 13 km de longueur jusqu'en haut à l'aiguille du Midi. Alors on lui demande ce qui se passe et comment il faut faire, parce que maintenant il va y avoir la grisaille des pierriers à la place de la glace. Alors, il lui répond, c'est moins de rayonnement réfléchi par la neige et une absorption par les roches de l'énergie solaire, mais le même phénomène qui fait des ravages du côté des pôles ou de la banquise, c'est partout comme ça. En insistant un peu, Luc Moreau finit par confesser être profondément triste de cette débâcle généralisée, mais il préfère regarder devant lui. À 61 ans, cet homme d'origine tourangelle, à le recul d'une carrière sur l'évolution glaciaire du massif du Mont Blanc. C'est lui qui a exposé le piteux état des lieux à Macron lors de la visite présidentielle en 2020. Il n'a pas dû en retenir grand-chose. C'était juste après le petit déjeuner, le chef d'État était monté sur le célèbre belvédère de la mer de glace. En 1909, lorsque fut inauguré le petit train qui y mène, les Sérac léchaient l'endroit. Et la neige, enfin la glace, coulait jusque dans la vallée de Chamonix. Plus d'un siècle a passé depuis la construction du train à crémaillère. Et le constat est amer pour les 800 000 passagers annuels alléchés par l'évocation du nom, mer de glace. Eh bien, la langue au reflet bleuté a perdu déjà 3 km. Et sa partie terminale s'est couverte d'un linceul de pierre. Quand un glacier perd de la masse, sa vitesse d'écoulement ralentit et il ne parvient plus à évacuer les débris qu'il charrie. Donc c'est un peu une vision désespérante dont on se console en songeant que cette couverture minérale isole ce qui reste de glace dessous. Mais un glacier en déclin ne fait pas que raccourcir et de se draper dans les pierres, il s'amincit aussi. Et ça, c'est plus grave. La glace qui passait à l'époque presque au niveau de Montanvert s'est progressivement retirée sur des dizaines de mètres en contrebas. Donc, il faut rajouter des marches pour accéder à la grotte de glace qu'on y creuse annuellement. Et les vacanciers déambulent entre les parois translucides en plein cœur de l'été. Ça se fait encore, mais est-ce que ça va durer? Bon, enfin, c'est un peu le tourisme de la dernière chance. Hein. Voilà, le glaciorium, comme ils disent, expliquera les fluctuations et les glaciations jusqu'à l'Anthropocène. On y apprend par exemple qu'à l'époque romaine, le paysage alpin était peu ou prou le même qu'aujourd'hui. C'est incroyable. Le niveau des glaciers était comparable. Mais le réchauffement résultait d'un processus naturel, nuance Luc Moreau. Et c'est sans doute le résultat de fluctuations solaires. Par ailleurs, tout se passait sur le temps long. Un coup d'accélérateur de ces dernières décennies est inédit dans l'histoire climatique. On ne sait pas ce qui se passe. En France et en Italie, en Suisse, en Autriche, tous les glaciers raccourcissent. Les habitants sont désormais à leur chevet et les glaciologues surveillent les poches d'eau qui s'accumulent durant les canicules, menaçant de se déverser sur les chalets en aval. Tout ça est très complexe, mais c'est fou, on n'y pense pas assez. On traverse les névés de printemps en direction de la cascade des Séracs du glacier d'Argentière, ce qui était très peu possible avant. Et derrière le verrou glaciaire, un lac se formera qui accélérera la fonte. C'est comme ça que ça va se passer. In fine, l'eau se retrouvera dans le lac Léman avec le reste de la fonte du versant français du Mont Blanc, drainé naturellement par l'Arve. Et le tout revenant ensuite en France par le Rhône et régulé par plusieurs barrages. Voilà comment l'eau ralentit, disparaît. C'est très... Ils annoncent un pic de la glace. Donc la montée de l'eau est prévue pour 2040, soi-disant. Ce sera le pic de fonte et un seuil fatidique qui marquera une baisse inéluctable du débit des rivières et des fleuves en aval. Voilà. Alors à partir de 2040, peut-être plus tôt, les rivières passeront à un régime plus nival que glaciaire. C'est-à-dire qu'elles seront gonflées par la fonte printanière des neiges, mais que ce qu'il restera des glaciers ne restituera que peu d'eau en juillet et en août. Le château d'eau alpin ne pourra plus fournir le même volume durant les étés qui s'annoncent plus caniculaires. Or, c'est tout l'intérêt que de redistribuer à la saison sèche l'eau stockée sous forme de glace. Le potentiel hydroélectrique pourrait s'en trouver diminué. C'est surtout en plaine qu'il faudra s'adapter de l'irrigation des cultures à refroidissement des centrales nucléaires en passant par la consommation quotidienne. Gare à l'eau, faisons attention. En fait, les glaciers de montagne constituent une masse négligeable à côté des calottes groenlandaises et Antarctique. Leur fonte complète ne contribuerait guère que sur quelques centimètres à la montée des eaux de mer. Sauf que les glaciers de montagne concernent directement 2 milliards d'êtres humains. Ils servent de château d'eau au sous-continent indien ou à l'Asie centrale notamment. Des régions parfois désertiques qui doivent une majeure partie de leur eau à l'arc himalayen aussi. Voilà, la fonte est cependant différente selon les massifs du monde. L'Himalaya subit un réchauffement moins dramatique que les Alpes, où les modèles prévoient que ces derniers se retirent à terme au-dessus de 3500 mètres. Autant dire qu'il ne restera pas beaucoup d'eau au-dessus de Chamonix. Voilà, la flore et la faune vont remonter vers les sommets. On appelle ça la solastalgie. La souffrance éprouvée face à ce bouleversement dans notre environnement, une sorte de nostalgie de la nature, telle qu'on a pu la découvrir enfant. Eh bien, les guides de haute montagne qui travaillent au centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude disent qu'en comparant avec des photos aériennes de 1950, on note une remontée moyenne de la forêt de 30 mètres par décennie environ. Et c'est un peu la fin du pastoralisme qui a permis le reboisement des pâturages et les plantes déménagent vers les hautes altitudes et colonisent les zones minérales mises à nu par le retrait des glaces. C'est un drôle de chambardement de l'étagement alpin et une extension du domaine de la chlorophylle. Bon, ça, c'est tant mieux pour la chlorophylle, pour les fleurs alpines qui débarquent en premier. Et puis, souvent, il y a des mélèzes qui font leur apparition. Et puis, les animaux remontent aussi. Donc, on y trouvera peut-être du plaisir quand même. Mais ce sera un énorme, énorme manque d'eau. Et c'est sans parler des refuges qui étaient autrefois riverains des glaciers et qu'on atteint désormais avec des échelles, ce qui est nettement moins drôle. Enfin, sans glaciers, nos étés auront terriblement soif. C'est quand même ce qu'il faut retenir de cette histoire. Musica.
Just don't know why. But you know.
Janis Joplin, Cry Baby, et vous écoutez Isabelle et l'émission Dididi.
Ouais, elle a raison, Cry Baby. Il y a de quoi pleurer, crier et tout, enfin. Il y a des gens qui essayent de trouver des solutions à toutes les conneries, je dirais, que peuvent faire les mairies, les gens qui ont le pouvoir, en tout cas. Donc, à Lyon, il y a eu une idée, mais qui est un peu dérisoire à mon avis, mais ça fait rien, c'est quand même une bonne idée. Ça s'appelle « La plastique des fluides », cet article que j'ai trouvé dans un, je sais plus dans quoi, dans Télérama, je crois. Un bassin à la margelle d'un bleu pétant surmonté d'un vase Médicis poli par l'eau et le temps qui passe dans la cour de l'espace de création des subsistances à Lyon. Il y a une installation aquatique qui s'appelle Bleu, qui joue sur le décalage entre azur intense et jeu d'eau intemporelle. Enfin voilà, c'est une œuvre mi-scène, mi-fontaine qui accueillera un flot de rendez-vous artistiques, pense-t-il. Bon, c'est l'eau qui doit pouvoir rassembler et rendre spectaculaire la fontaine la plus basique. C'était une idée toute simple, mais tellement simple que ça me paraît dérisoire. Ça fait rien, ils essayent. Voilà, Alix Boyot, c'est la jeune femme qui a proposé ce projet en résidence, qui était sensible aux histoires de l'eau. Eh bien, elle a présenté des spectacles qui tournent autour du bleu, autour de l'eau, et elle a fait une performance. Et ensuite, elle a décidé de récupérer 10 000 mètres cubes d'eau de pluie grâce à une dizaine de cuves blanches en plastique. Depuis février, les citernes stockent ce qui ruisselle à chaque ondée depuis la large toiture de l'ancien couvent où logent ces gens-là. Nous avons choisi de les garder à la vue de tous pour que chacun sache d'où provient l'eau. De cette façon, en cas de sécheresse, les bassins resteront vides et un panneau explicatif informera le public. Par ailleurs, tout a été étudié pour que Bleu reste indolore pour la planète avec une empreinte carbone minimale. Les bassins et les différentes assises ont été assemblés sur place. Chaque pièce était réalisée par impression 3D au mortier fibré, lequel pourra être recyclé au démontage de l'installation. Alors, il n'y a pas de chlore non plus dans l'eau, mais un ingrédient mystère qui se mange, fond et permet de traiter le liquide naturellement. Bon, voilà ce qui se passe à Lyon. Et donc, ils ont mis ces espèces de grandes bassines qui sont des bassines juste pour recevoir la pluie. Et ils pensent que ça va être extraordinaire parce que ça va se remplir d'eau de pluie et que ce sera une réserve naturelle et facile. Voilà, c'est un peu drôle comme idée, mais ça fait un peu désespoir de cause. Bon, l'article me parlait parce que pour Saint-Hippolyte, qui avait encore qui avait été le village des 13 fontaines, qui l'est encore, sauf que les fontaines sont toutes coupées par la mairie. Alors c'est pour ça que l'aménagement d'une place qui ne demandait rien et qui ne va pas changer grand-chose, sinon remplir le maire de satisfaction, me désole un peu. Imaginez s'il y avait 13 fontaines, c'est qu'il y avait beaucoup de sources autour de la ville. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont tout coupé, tout démonté. Et je crois que ça, c'est vraiment la grande catastrophe qu'a fait la mairie de Saint-Hippolyte depuis quelques années. Où passe l'eau? Parce que si c'est pour nous envoyer l'eau dans la plaine, au-delà de Saint-Hippolyte, c'est ridicule. Pourquoi priver un village de toute l'eau qui arrivait? Je ne comprendrai jamais. Enfin. Bon, les amis, il y a quand même des choses plus intéressantes. Il y a des... J'ai vu une jeune femme qui s'appelle Claudia Wald qui fait des œuvres absolument spectaculaires, qui fait des aplats géants. Elle appelle ça d'ailleurs des aplats de géants. C'est un peu une street artiste qui graffe sur les murs, ou sur les sols quand elle peut, et c'est assez étonnant. Voilà, elle s'appelle Claudia Wald. Malheureusement, pour l'instant, c'est surtout à Berlin qu'on voit son boulot, mais c'est vraiment intéressant, parce que c'est un espèce de défi, et c'est ça qui est formidable. Le street art ne serait donc pas mort. Sinon, il y a toujours des très grandes expos qui sont dans la région. Dans la région. À Monaco, il y a Monet. Bon, Monaco, c'est vrai que c'est pas tout à fait à côté, à Antibes, mais ça fait rien. C'est quand même un peintre extraordinaire qui est en pleine lumière. Et ça, ce serait, je crois que c'est vraiment une très, très belle expo. C'est un espèce d'impressionnisme très doux et qui en même temps, lance des lumières absolument magiques sur la Méditerranée. Donc, si on veut aller voir l'expo, c'est encore jusqu'à... Bam, bam, bam. Ah non, je me suis plantée, c'était pas le bon papier, parce qu'il y a une autre expo. Bon, celle-ci était jusqu'au 3 septembre, je suis désolée les amis. Bon alors, ce sont des choses qui arrivent. On va passer à autre chose. Il y a un peu partout des... Il y a toujours par contre l'expo de Germaine Richier au musée Fabre. Là, c'est vraiment extraordinaire. Allez-y, parce que c'est drôle, parce que j'ai toujours entendu dire que la petite danseuse qui est dans le jardin d'enfants près du temple était une sculpture de Germaine Richier, mais j'en suis pas sûre. Donc, j'aimerais bien savoir si c'est vrai ou pas. Peut-être quelqu'un de la mairie le sait-il. Enfin, je l'ai toujours entendu dire, en tout cas, mais je suis pas sûre. Autre chose, au MUCEM... Au MUCEM à Marseille, ben, il y a toujours des expos formidables. Et ça, cette fois, c'est une très grande expo photo. Il n'y a même pas de thème. Hein. Alors, je ne sais pas si... Ah si, le thème, c'est au Salon des Arts Ménagers. Mais bon, le MUCEM, c'est toujours un endroit extraordinaire à Marseille. Et ça, c'est pas si loin. Ça vaut vraiment la peine d'aller y passer la journée. Voilà, les amis, à part ça... Il y a des livres, il y a des films, il y a plein de choses à voir et à entendre. On va écouter un peu de musique et je vais retrouver mes papiers, s'il te plaît. Fabien.
Blah.
Angélique Kidjo avec le titre Bléou et vous écoutez Isabelle et l'émission Didi.
Eh bien, on va finir avec un arrêt sur image. Parce qu'il y a eu un documentaire, je ne sais plus où je l'ai vu, qui était cadré 1h30 durant par le personnage du royaume de Malika. Et c'était une buvette qui tient depuis 30 ans au bord de la Nationale 1 qui relie Alger à la frontière du Niger. C'est un bloc, un parallélépipède de 50 mètres cubes posé en plein Sahara dont le sable se retrouve jusque dans les omelettes. Mais ça n'est pas pour les œufs, ni pour le thon en boîte, ni pour le thé des routiers, routards, des musiciens, des imams qui s'arrêtent chez cette septuagénaire dont la silhouette s'impose au milieu de la cambuse, comme elle détonne face à la route rectiligne et aux horizons infinis qui l'entourent. Les usagers de la transsaharienne qui font halte chez elle viennent surtout briser leur solitude au contact de cette reine du désert. Cette femme qui tient la vigie. Elle passe de la maman à la sorcière, à la psy. Son écoute et sa parole fine se doublent d'un humour sarcastique et d'une présence physique dont la caméra tire parti avec un style très, très affirmé. Voilà, c'est un documentaire absolument extraordinaire, à porter aussi haut que l'art de la mise en scène sans y perdre en humanité. Et puis, ça se mêle à l'évocation sensible et formaliste de l'abstraction, c'est drôle. Cette buvette, elle est vue sous tous les angles. On essaye de chercher à épuiser toutes les possibilités de point de vue sur ce vulgaire bloc de ciment. Mais c'est beaucoup plus important que ça, parce que ça intègre dans l'image tout. Les fenêtres, les portes, les écrans, le téléphone, le visage joufflu de Malika dans un carré d'ouverture. Et puis, c'est vraiment une femme qui est la gardienne du vide. C'est quand même incroyable. Avec un austère royaume autour d'elle. Ça s'appelle le royaume de Malika. C'est une version télévisuelle. 243 rue du désert, qui est sorti peut-être il y a 2 ans au cinéma, peut-être moins, je ne sais pas. Mais en fait, toujours est-il que c'est un très, très joli film. Je ne sais plus quel temps il fait, pas énormément, hein, peut-être 1 heure. Voilà, je voulais juste vous en parler. Ça s'appelle « Le royaume de Malika ». Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même plaisir pour ma part. En tout cas, merci Fabien de m'avoir accompagné. Et adios à tous.
Adios. Adios. Adios to your afternoon. 'Cause tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain room. Adios, adios, I'm sorry for quickly jumping into the train. I waited but no one came, you were just too late. That decision is mine, that decision is mine. So let the lesson be mine, let the lesson be mine. That decision is mine, that decision is mine. 'Cause that vision is mine, that vision is mine. Adios. Yes, goodbye, adios. Adios to the little child in me who kept on blaming everyone else instead of facing his own defeat in Edmonton. After all, I should have no regrets, for if it wasn't for my mistakes I made yesterday, where would I be by now? That decision was mine,
that decision was mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision was hard. That decision was hard. But the vision is mine. That vision is mine.
Taking my bags and I'm going down to Silver Street, taking the train. I know very well the angels, they come and go. You know, last time I met an angel, but then, you know, she left. And I don't know the things about angels anyway. You know, sometimes you think that you know more than you know, but you actually don't understand. Anyways, when they come to me, they sing to me so beautifully. If I can recall their melodies, it goes, excuse me to take your time, but it goes something like this.
Lest the tree cease breathing, lest the bee cease breeding, and all the salt in the Dead Sea ferments to honey. Until then, I'll be forever chasing, chasing, chasing. Decision is mine, the lesson be mine, 'cause the vision.